Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bienvenue pour notre quatrième cours. Nous nous sommes quittés autour de la question pourquoi le serpent discute avec la femme, qui ne s'appelle pas encore Ève, et non pas avec l'homme. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit on dit que ce qu'on trouve dans tous les commentaires, que les femmes sont plus faciles à séduire, sont trop crédules, et puis donc le serpent cherche une proie facile. Mais en même temps, il faut imaginer aussi que l'homme, apparemment, il est à côté, on va le voir, donc il n'intervient pas tellement. Et puis, je vous ai dit aussi que, pour aussi réfléchir au fait que dans la Bible hébraïque, la sagesse est personnifiée par une femme, en fait. Donc, comme la discussion porte autour de la connaissance du bien et du mal, ce qui est évidemment aussi un sujet de la sagesse, c'est peut-être pas non plus totalement par hasard que c'est la femme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les trois interprétations de l'interdit. Dieu avait dit au chapitre Dieu à l'être humain qui n'était pas encore différencié en homme et femme. Il avait dit de tout arbre tu mangeras certain, du jardin tu mangeras certainement, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu mourras, motiuma, tu mourras certainement. Donc le jour même. Et le serpent, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à la femme, Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Évidemment, ça provoque une réponse de la femme qui, elle, va dire, du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, donc elle ne dit pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle appelle l'arbre au milieu du jardin, qui peut être l'ancienne appellation, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, pour que vous ne mouriez point. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes discours. Hein. Et ensuite, le serpent va dire, non, vous ne mourrez certainement pas. En effet, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme un Elohim ou des Elohim, connaissant du bien et du mal. Alors qui a raison ? C'est pas si évident, c'est pas si évident. Donc on peut déjà dire que la femme, elle réinterprète un peu, parce qu'elle ne dit pas le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement, elle dit pour que vous ne mouriez point. Donc on ne sait pas à quel moment là la mort va intervenir. Elle renforce l'interdit puisqu'elle rajoute vous ne toucherez pas, ce qui n'était pas dit dans le discours divin. Et donc la mort n'est pas immédiate dans le discours de la femme, mais c'est peut-être à la fin de la vie. Et le serpent dit que le couple humain, vous viendrez comme des dieux. Ce qui est quelque chose que Dieu reconnaît tout à l'heure, plus tard. Hein? Donc, c'est difficile de savoir qui a raison. La femme a d'une certaine manière raison parce que la mort ne va pas intervenir tout de suite. Et le serpent a quand même aussi un peu raison, puisque les yeux vont s'ouvrir et Dieu va dire ils sont devenus comme un de nous. Donc, il faut se poser la question si cette transgression n'est pas du coup nécessaire. Donc, le serpent n'est pas totalement menteur. Il y a, pour les hébraïsants, une petite construction ambiguë, « lomut temutun » en hébreu. Vous pourrez aussi le traduire par « non ». Vous mourrez certainement, parce que normalement, ça devrait être motlo temutun. Donc, comme si le serpent, dans cette ambiguïté, annonce peut-être quand même la mort, tout en disant, vos yeux vont s'ouvrir. Hein? Et c'est exactement après ce qui va, en effet, se passer. L'ouverture des yeux, c'est quelque chose qui est toujours, en fait, considéré comme positif. Vous pensez, par exemple, à Hagar, quand elle est dans le désert et son fils est en train de mourir. Donc, l'ange va lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie le puits. Ou Yahvé ouvre les yeux de Balaam pour qu'il voie le messager que l'ânesse va, mais que Balaam ne va pas. Donc, l'ouverture des yeux, c'est positif. Être comme des dieux, C'est lié aussi à la sagesse, puisque la femme de Tekoa, elle va dire à David, « Mon Seigneur est sage, aussi sage qu'un ange, un messager d'Elohim. » Donc il y a quand même un lien entre être proche des dieux et être sage. Cependant, évidemment, dans notre récit, l'enjeu, c'est quand même de réfléchir sur la relation entre les dieux et les humains. Est-ce que les humains peuvent devenir comme des dieux ? C'est tout le problème des premiers chapitres de la Genèse. Nous allons voir en deux semaines qu'il y a cette histoire bizarre où il y a des fils des dieux qui couchent avec les femmes des hommes. Et ça, ça ne marche pas du tout. Alors ça, c'est horrible. Chez les Grecs, ce n'est pas un problème. Chez les Grecs, vous pouvez avoir ces contacts assez fréquemment. Dans la Bible, pas tellement. Gilgamesh, un peu, mais dans les héros bibliques, on ne dit pas vraiment que quelqu'un est moitié dieu, moitié humain. Encore que nous allons voir dans l'histoire de Caïn et Abel, Yahvé n'est pas tellement innocent lors de la première naissance de Caïn, comme on verra ça un peu plus tard. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et délice pour les yeux. Ça s'était dit pour tous les arbres. Et maintenant, évidemment, ça s'applique à cet arbre précis, donc, qui apparemment, dans la tête de la femme, va donner l'intelligence, la racine sarcale. C'est une expression sapientiale qui signifie la compréhension, mais aussi la réussite. Quand on comprend quelque chose, on peut aussi réussir. Et donc, elle va prendre du fruit de cet arbre. Donc là, vous avez une représentation qui est assez typique. Vous avez déjà vu que le serpent est parfois dépeint un peu avec les traits d'une femme, parfois même avec les traits d'Ève. Il y a une autre tradition, peut-être Corinne va nous en parler tout à l'heure, sur Lilith, qui était la première femme dans la tradition juive. Alors, donc, je vous annonce déjà le séminaire de tout à l'heure. Donc, vous voyez aussi sur ce tableau, vous voyez les quatre sources du paradis. Ça, c'est beaucoup plus rare dans l'histoire de l'art qu'on les présente à ce moment-là où il y a cette séduction. Voilà, alors le fruit. La pomme, c'est devenu la pomme, mais pas toujours. Hein, c'est pas toujours, parce que le verset 6 dit simplement, elle prit de son fruit et elle en mangea. Alors c'est quoi le fruit ? Après ils font quoi ? Une fois qu'ils ont compris qu'ils sont nus, ils se font des pagnes avec quoi ? Avec un figuier. Alors, donc, c'est pour cela, certains ont dit, en fait, c'est des figues. Hein, on trouve, par exemple, ça dans l'Apocalypse de Moïse. On retrouve aussi l'idée que c'est du raisin. Et puis, après, dans la tradition juive, qui est assez, une idée assez importante, c'est l'étrog, donc une sorte de fruit de citron, hein, qui joue un rôle très important au moment de la fête de Sukkot. Mais apparemment, c'est une tradition quand même assez longtemps, qui dure jusqu'au Moyen-Âge et au-delà, même dans l'histoire de l'art. Parce que là, vous avez un extrait de l'adoration de l'agneau mystique des frères Eck. On voit Ève, donc je vous l'ai agrandi, qui tient, c'est pas une pomme, qui tient une sorte d'étrog, apparemment. Hein. Donc, le figuier, vous l'avez chez Michel-Ange. Là, vous avez une représentation de William Blake. Donc, ce n'est pas trop ce qu'il a imaginé comme fruit, mais ça semble encore plus l'étrog que la pomme. Ce qui est très intéressant aussi, la manière dont on représente dans ce tableau la transgression. L'homme regarde ailleurs, et puis la femme est tout seule avec le serpent. C'est encore mieux chez Moreau, où l'homme est totalement absent, où le serpent est une sorte d'être hybride, hein, avec une tête serpent, une tête d'homme, là, qui apparemment, c'est quand même assez sexué et sexuel, qui, dont sa queue est enlacée autour de la cheville de la femme. Bon, Donc, pourquoi alors la pomme ? C'est une tradition qui n'est pas très, très ancienne, parce que souvent on dit que c'est lié au fait qu'en latin, malum, ça peut être le mal, mais aussi la pomme. Et encore que, à l'origine, malum, c'est la pomme dans un sens très large, ça pourrait être aussi la poire et n'importe quoi. Et souvent on dit que ben, c'est à cause de la traduction au latin. Mais dans la traduction au latin, on n'a pas du tout ça. Parce que dans la traduction latin, la Vulgate, on a simplement fructus. Donc c'est une idée qui vient assez tardivement. Apparemment, elle est attestée la première fois au 5e siècle chez Cyprianus Gallus, un père de l'Église. Et le jeu de mots n'est même pas mentionné. Donc ça vient beaucoup plus tard. Donc c'est attesté assez tardivement. On pense penser que dans le Cantique des Cantiques, la pomme est aussi considérée, je vous ai mis là une citation, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon chéri parmi les garçons, à son ombre, selon mon désir, je m'assieds, et son fruit est doux à mon palais. Donc est-ce que c'est ça l'idée qui a amené l'interprétation de la pomme, ou simplement le fait qu'en Europe, la pomme est quand même un fruit assez répandu, et qu'au moment où voilà, on importe le motif dans l'art européen, on pense de plus en plus à la pomme, mais qui ne s'est jamais non plus totalement imposée, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les autres tableaux. On peut aussi penser encore à la mythologie grecque. Là, vous avez une représentation de Hercule, qui doit donc, c'est je crois l'onzième travail de Hercule, qui va rapporter les pommes qui se trouvent dans le jardin de la déesse Gaïa. Mais si vous regardez cette représentation, elle date de l'époque chrétienne, donc la pomme, il y a déjà une sorte de serpent là autour de l'arbre, donc il y a peut-être déjà une sorte de confusion d'une tradition chrétienne avec la mythologie grecque. Alors, l'acquisition de la connaissance, est-ce que les yeux vont s'ouvrir, comme le serpent avait bien prévu, mais ils vont connaître qu'ils sont nus. Donc, le verbe connaître, yada, est utilisé, nous allons le voir au début du chapitre 4, comme un euphémisme pour le rapport sexuel. Et il y a un lien. Donc, je reviens encore une fois sur Gilgamesh. Puisque Gilgamesh, vous souvenez, a besoin d'un vis-à-vis, on lui crée Enkidu. Enkidu va d'abord vivre avec les animaux. Il n'est pas encore tout à fait humain. Et quand est-ce qu'il va devenir humain ? Ben, une fois, il a fait l'amour pendant une semaine, donc c'est quand même assez long, pendant une semaine avec la prostituée. Et donc, le texte nous dit, il avait acquis la raison. Il déployait l'intelligence et, s'adressant à Enkidu, la prostituée lui dit « Tu es beau, Enkidu, tu es devenu comme un dieu. Pourquoi vagabonder dans la steppe avec les bêtes ?» Donc c'est l'acte sexuel qui apparemment va faire que Enkidu va désormais se distinguer des animaux. Donc l'idée, c'est qu'il y a un autre rapport à la sexualité entre les humains et les bêtes. Et donc, c'est sans doute ce qui est induit par cette idée qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, ils se rendent compte de leur différence sexuelle, ce qui fait naître un sentiment de pudeur ou de honte, d'où la nécessité de se vêtir. Et donc, là, on trouve le fameux feuille de figuier qui, en français, sont devenues des feuilles de vigne. Peut-être parce que les vignes sont plus fréquentes, donc si on dit feuille de vigne, c'est quelque chose évidemment qui cache à peine, comme dans d'autres langues, les feuilles de figuier. Et alors, ils entendent le bruit de Yahvé Dieu qui se promène dans le jardin. Donc, ils cohabitent dans ce jardin, Dieu se promène, et ils entendent Kol. Kol, c'est le bruit, mais c'est aussi la voix. Et là, de nouveau, en hébreu, il y a un jeu assez subtil, parce qu'il y a une expression, surtout dans la tradition du Deutéronome, « Shama bekol Adonai »,« écouter la voix du Seigneur », donc c'est une manière de dire « suivre les commandements ». Là, ce n'est pas ça. Ils écoutent, ils entendent le bruit de Yahvé qui, voilà, qui se ferait un chemin à partir de, je sais pas, à travers des arbres, on ne sait pas. Mais pour quelqu'un qui sait bien l'hébreu, il va penser en même temps aussi à Shama Bekol Adonai, parce qu'ils n'ont pas justement écouté la voix du Seigneur qui leur avait en effet interdit de manger de cet arbre, mais ils écoutent maintenant son bruit qui fait qu'il arrive, et donc ils se cachent à cause de leur nudité. Donc, de nouveau, je crois, je vous ai déjà dit la semaine dernière, le vêtement est un statut social important, la nudité est considérée comme dégradant, on met à nu des prisonniers, c'est l'humiliation ultime, et dans la tradition sacerdotale, évidemment, vous avez dans les Lévitiques tout un passage qui décrit en effet comment le prêtre doit s'habiller pour qu'on ne voit pas ses organes génitaux quand il monte vers l'autel. Et puis vient le dialogue de Yahvé avec les trois acteurs. Et cette image est assez magnifique parce que, comme je vous ai déjà dit, chacun renvoie la faute à l'autre. Donc Adam, l'homme va dire « Ah ben, c'est la femme !» Et la femme va dire « Ah ben, là, c'est les serpents !» Donc cet artiste-là, donc Zampieri, a très bien, en effet, senti ça, même si Dieu qui se promène là dans les airs n'est pas tout à fait ce qu'il dit le récit. Ça, c'est évidemment déjà d'autres conventions artistiques. D'autant plus les petits chérubins là, qui se promènent. Mais bon, ça, ce n'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu la manière dont il met en scène en fait, le dialogue. Donc, chacun met la responsabilité sur l'autre. Dieu les interroge presque comme un père. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi as-tu fait cela? Et la réponse de l'homme, de l'être humain, c'est « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné. Donc maintenant, c'est ta faute parce que tu m'as donné cette femme. » Alors qu'il s'était écrit, donc voilà, « Os de mon os, chair de ma chair ». Donc cet os de mes os, c'est chair de ma chair, c'est un peu cette solidarité. Là, elle est déjà rompue. La femme elle-même va aussi renvoyer, évidemment, la faute au serpent. Hein, ce qui est intéressant, c'est le serpent, après, ne va pas être interrogé, alors qu'on sait que le serpent s'est parlé. Donc l'interrogation s'arrête après la femme. Pourquoi Dieu n'a pas interrogé le serpent? Peut-être, comme je vous ai déjà un peu fait comprendre, peut-être parce que le serpent, il fait partie un peu du projet divin. C'est un peu l'agent provocateur, comme... Je l'ai laissé entendre, je vais le redire tout à l'heure. Je crois, en fait, le couple humain ne peut pas rester dans le jardin. Il faut que cette transgression se fasse pour que les humains deviennent vraiment humains. Donc l'idée, c'est que la transgression fait partie de la condition humaine, c'est-à-dire il y a des lois qui sont données par la divinité, mais l'être humain n'est pas considéré comme une sorte de marionnette ou un robot qui met simplement en exécution ce qu'on lui dit. Donc il y a toute une réflexion sur la transgression. La transgression ici, elle est fondatrice. Elle est nécessaire. Donc c'est pour cela peut-être le serpent, bien qu'il soit aussi puni, mais il sera puni d'une certaine manière pour expliquer, vous allez voir, certaines caractéristiques du serpent. Donc on avait l'homme, la femme, le serpent, et maintenant les sanctions, ils vont être dans l'autre sens, le serpent, la femme et l'homme. Donc le serpent va être maudit, arour. Donc de nouveau en hébreu, ça fait... C'est très proche de arum. Vous vous souvenez, arum, c'était les serpents intelligents. Arum, Arour, donc maintenant ce serpent intelligent est maudit. Alors comment il faut traduire? Il y a deux manières de traduire. On peut traduire comme une comparaison, c'est-à-dire tu es, parce que vous avez eu en 3.1 au début de l'histoire, Arum, Hol, Chayat, Hasadeh. Donc la plus intelligente, l'être, la bête ou le serpent était le plus intelligent parmi toutes les bêtes des champs. Hein? Et maintenant, nous avons Arur Mikol Hayat Hasadeh. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es plus maudit que les autres animaux des champs? Ou est-ce qu'on peut simplement traduire « tu es maudit parmi les animaux des champs » Donc la question, c'est en effet, est-ce que la malédiction, maintenant, s'abat sur tous les animaux? Parce que désormais, les animaux vont, comme on va l'apprendre après le déluge aussi, servir de nourriture aux humains. Est-ce que c'est ça leur malédiction, hein? Ou est-ce qu'on dit simplement « toi, contrairement aux autres animaux, tu es maudit ». Et le texte hébreu ne laisse pas tellement entendre quelle est la préférence en fait. Si vous faites la comparaison, ce sera presque le premier cas qui est aussi choisi par la Bible du rabbinat. Ça va ? Tu es maudit plus que les animaux des champs. Mais évidemment, la malédiction, elle est très spécifique puisqu'elle va considérer le fait que le serpent doit se mouvoir sur son ventre, hein. Donc, comme dit Rashi, donc il faut en déduire qu'il avait des pattes et elles ont été coupées. Donc, c'est pour cela que dans certaines représentations, comme ici, on met le serpent avec des pattes, puisque le fait de se mouvoir sur le ventre est considéré dans ce texte comme une sorte de malédiction éthiologique. Le mot ventre, gachon, se trouve encore en Lévitique 11, justement au niveau de la définition des animaux impurs. Donc tous les animaux qui sont comme des serpents qui se meuvent sur le ventre, ils sont considérés comme impurs. Et le serpent qui avait poussé la femme à manger le fruit interdit doit maintenant manger de la poussière. Ça fait partie en fait de la malédiction. Et évidemment, vous pouvez à un certain niveau vous dire, c'est aussi... comme on peut le voir assez aisément, c'est aussi un récit un peu éthiologique qui explique que pour un agriculteur palestinien ou ailleurs, les serpents, c'est des animaux très dangereux. Hein, parce que vous ne les voyez pas, ça vous mord. Et donc, ça, c'est l'idée qui va être reprise par rapport, en effet, à la femme, puisque Yahvé et Dieu va dire... C'est l'hostilité que je vais mettre entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Celle-ci, donc la femme, te blessera la tête et toi, tu les blesseras le talon. Donc elle t'écrasera et toi, tu vas mordre le talon. Donc dans le texte masorétique, c'est clair, les ennemis, c'est la femme et sa descendance et le serpent et sa descendance. Alors que dans la Septante, dans le texte grec, on a « il ». Il guettera ta tête et toi, tu guetteras le talon. Le « il », c'est quoi? Parce que, en fait, la semence, sperma, en grec, c'est neutre. Hein, donc, c'est difficile pour dire peut-être en hébreu, c'est masculin, mais est-ce que la Septante, c'est ça? Ou est-ce que ça fait penser à autre chose? Donc, dans le Targum, on va dire le « il », c'est toute la communauté juive qui va en effet dominer le mal s'il garde la Torah, s'il garde la loi. Et puis dans le christianisme, on va faire ce qu'on appellera plus tard le protévangile. On va dire le « il ». Le « il », c'est le Messie à venir. Donc c'est le Messie qui va en effet vaincre le serpent. Et donc là, c'est évidemment quelque chose que vous aurez ensuite dans l'Apocalypse de Jean, hein, dans le dernier livre du Nouveau Testament, où on a cette idée de serpent qui est identifié au diable, hein, et aussi la femme qui est identifiée à Marie. Mais disons, dans le texte original, ce n'est pas du tout aussi spéculatif que ça, c'est simplement cette hostilité entre les agriculteurs et le serpent. Alors, la sanction de la femme, ben, ça concerne d'abord les grossesses et l'accouchement. Évidemment, à l'époque, c'est des moments critiques où peuvent mourir très facilement soit la femme, soit le nouveau-né, Hein, et la Bible a plusieurs récits où on met en scène un accouchement difficile. D'un côté, Rachel, qui meurt lors de l'accouchement de son dernier fils, de Benjamin, qu'elle appelle d'abord le fils de ma misère, Ben-Oni. Hein. Et de l'autre côté, nous avons l'histoire, dans le contexte de l'histoire de l'Arche, la femme du prêtre Pinchas, qui elle, on n'a pas son nom, qui elle meurt pendant l'accouchement aussi, et elle appelle son fils Ikavod, où est la gloire. Donc c'est des noms qui sont donnés au moment où justement la femme est en train de mourir. Et puis deuxième, et ça évidemment ça fait aussi beaucoup de succès dans l'histoire de la théologie et la philosophie, c'est la soumission de la femme à l'homme. Hein? Donc vers ton homme seront tes désirs ou ton désir, et lui il te dominera. Alors, donc, on a souvent, évidemment, considéré ça comme une sorte de légitimation de la domination du mâle sur la femme. Alors, ce qui est déjà intéressant ici, que c'est considéré comme une sanction. C'est pas considéré comme étant l'état normal. Hein. Donc, c'est pas pour justifier une domination simplement par pour des causes naturelles, donc c'est la transgression qui amène cette sanction. Et ensuite, le mot qui est utilisé, teshuka, c'est un mot qui est très rare. En fait, on va le trouver que dans deux autres textes. Le premier texte, c'est juste le chapitre qui va suivre, l'histoire de Cain à Abel, où c'est le désir du péché qui va vers Cain, et ensuite dans un texte du Cantique des Cantiques, où là c'est presque un peu le contre-programme, puisque dans ce texte-là, c'est la femme qui va parler et qui va dire « Je suis à mon bien-aimé et vers moi est son désir ». Donc si vous mettez les deux textes ensemble, ben, ça s'équilibre en fait. Ça s'équilibre. Et je pense que c'était sans doute l'idée de l'auteur du chapitre 7 du Cantique qui a certainement connu ce texte et qui s'est dit « ça ne va pas comme ça, il faut équilibrer un peu les choses ». Alors souvent on oublie Cantique 7 et on se concentre seulement sur Genèse 3, mais il faudra, à mon avis, voir les deux textes ensemble. Et vient ensuite la sanction de l'Adam, de l'homme. Et contrairement à ce qui est fait pour la femme, ici on reprend d'abord l'interdit originel et on précise « tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai ordonné, tu n'en mangeras pas, à la sueur de ton front tu mangeras de la nourriture jusqu'à ce que tu retournes vers le sol car c'est de lui que tu as été pris ». Donc le mot-clé ici c'est « manger ». Évidemment, qui revient constamment, et la transformation de la sanction initiale, parce que dans la sanction initiale, c'est le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Et là, il dit, tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes vers le sol où tu as été pris. Donc Dieu, là, revoit en fait la sanction. Et c'est la mort à la fin d'une vie qui est considérée maintenant comme la sanction et pas la mort immédiate, comme ça a été dit au chapitre 2, au verset 7. L'idée de retourner au sol, on le trouve de nouveau dans l'épopée de Gilgamesh, où Gilgamesh, au moment où son ami Enkidur meurt, il dit « Mon ami que j'ai aimé est redevenu de l'argile ». Donc une idée que se trouve aussi déjà à Babylone. Le sol va être maudit. Au début de l'histoire, on avait vu qu'aucune herbe des champs ne germait encore. Maintenant, l'herbe des champs est là, donc à manger par l'Adam. Mais ce qui n'était pas marqué au début, maintenant il y a des buissons d'épines et des broussailles qui germent également du sol et qui rendent donc la vie difficile parce que c'est à la sueur de ton front qu'il faut en effet récolter les fruits qui font vivre. Et c'est à ce moment-là seulement que l'homme va nommer sa femme Chava, Ève. Donc il la nomme pas au moment où la différenciation se fait. Il dit, on l'appellera Isha parce qu'elle est plurise du Ish, hein, mais il ne donne pas de nom. Et c'est ici qu'on donne le nom. C'est pour cela qu'il y a des exégètes qui pensent que ça a été rajouté après coup. Parce que ça vient un peu bizarrement ici, pourquoi maintenant il la nomme. Mais il y a quand même, à mon avis, une raison assez simple. Parce que le nom de Ève, Chava, bon, l'étymologie peut toujours discuter, mais le narrateur nous dit c'est elle la mère de toute vie. Hein? Dieu avait annoncé au verset précédent, tu vas retourner au sol, donc tu vas mourir, à la Adama. Et l'homme se dit, oui, je vais mourir, mais la vie va continuer. Et donc c'est un peu une sorte presque de contre-programme par rapport à ce que Yahvé Dieu lui avait dit. Donc l'homme a compris maintenant, avec la connaissance de la nudité, de la différenciation sexuelle, que face à la mort, il y a la suite des descendances, la généalogie. Et c'est pour cela, à ce moment-là, il va nommer sa femme de cette manière. Alors, est-ce qu'on peut dire Ève, c'est une sorte de mère universelle, puisque dans le Siracide, on a ce texte, des grands tracas ont été créés pour tout homme, et un joug pesant est sur le fils d'Adam depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère, jusqu'au jour où ils retournent à la mère universelle. Mais c'est peut-être un jeu avec mère, donc d'abord c'est peut-être la mère biologique, et après la mère universelle, c'est peut-être la terre, comme on l'a vu dans d'autres contextes, donc je ne suis pas sûr que ça s'applique à Ève, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ils doivent quitter le jardin, que Ève reçoit ce nom, et c'est seulement en dehors du jardin qu'ils vont avoir des rapports sexuels et que la première génération va naître. Donc je pense qu'il n'y avait pas de sexe au paradis. C'est toute une discussion, voilà. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose au paradis ou non ? Mais comme ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ben, à mon avis, ils n'ont rien fait. Donc il faut attendre la sortie, en fait, du paradis, qui s'accompagne donc des vêtements. Donc là, c'est intéressant aussi. Il y avait qui les avait sanctionnés, ils leur fournaient quand même des vêtements. Hein ? Ils leur fournissent des vêtements. Comme on l'a aussi de nouveau, je vous l'ai déjà dit, je le redis, que Gilgamesh, c'est presque un peu l'arrière-plan de toute cette histoire, parce que lorsque Gilgamesh a couché avec Samhat, elle va d'abord lui donner une partie de ses vêtements, et ensuite, on va dire qu'il met un vêtement. Le terme qui est utilisé ici, coutonnette, c'est une tunique. Alors souvent un habit des prêtres, mais d'en faire d'Adam et Ève les premiers prêtres, comme je l'ai lu récemment, c'est peut-être un tout petit peu poussé quand même les choses. Mais c'est un vêtement, donc c'est pas simplement quelques vieux peaux, même si on dit que c'est à partir des peaux. Et ce qui évidemment aussi pose la question d'où vient en fait ces peaux. Donc ça veut dire que sans que le texte le dit, ça implique la mise à mort des animaux, ou d'un animal. Alors le Targum dit, c'est le serpent. On a pris la peau du serpent. Je ne sais pas si c'était suffisant, mais le texte ne dit pas. Donc je pense que c'est simplement lié à cette malédiction aussi des animaux qui maintenant servent aussi justement à fournir aux humains de quoi se vêtir, de quoi manger, et, etc. Et pareil, donc ça veut dire en fait que la relation harmonieuse entre les animaux et les humains est en effet rompue. Donc de nouveau, je rappelle à Gilgamesh, dès que Enkidu avait mis un vêtement, donc Enkidu qui était en fait avec les animaux, qui défendait les animaux contre les autres humains, et dès que Enkidu a mis un vêtement, il commence à chasser les animaux. Donc là aussi, de nouveau, cette rupture, en fait, dans la cohabitation entre les humains et les animaux. Donc, je vous montre deux représentations de la sortie du paradis. C'est intéressant parfois comment les artistes lisent ou lisent pas le texte. Donc la question, est-ce qu'ils ont lu le texte ou non ? Parce que là, vous avez en effet de Masaccio. Là, ils sont nus. Après, on leur a restitué quelques figuiers ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est l'original. Alors que le texte dit quand même assez clairement qu'il y avait leur fait des pots et ce qui, en effet, leur permet de sortir du jardin. Ensuite, il y a ce discours, nous l'avons vu, qu'il a été ajouté parce que tout d'un coup, on va introduire l'arbre de vie. Il n'a plus besoin parce que maintenant ils sont sortis, mais ça introduit l'idée de l'immortalité, donc que Dieu dit qu'il tend pas sa main, ils prennent aussi de l'arbre de vie, qu'ils en mangent et qu'ils en vivent pour toujours. Donc là, c'est clairement un ajout qui veut peut-être préparer l'histoire de la tour de Babel, où il y a de nouveau une sorte de compétition entre les humains et Elohim, entre Dieu. Donc ça, apparemment, c'est l'angoisse ici. Il ne faut pas que les humains deviennent comme nous. Grande angoisse des dieux. Et donc, la conclusion originelle se trouvait, en fait, au verset 23. Yahvé, Dieu, renvoya l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol duquel il avait été pris. Donc ici, c'est simplement renvoyer, shalach. Au verset suivant, on va avoir garash, chasser. Hein? Et on a l'impression ici, c'est plutôt quelque chose de presque normal, parce que renvoyer, c'est aussi un verbe qui est utilisé quand Moïse et Aaron négocient avec le Pharaon, on dit « laisse-nous partir, renvoie-nous ». Donc en fait, c'est le retour vers leur habitat normal, puisque au verset 7 et 8, on avait dit, non, verset 5, 7 et 8 du chapitre 2, il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Après, Yahvé fait le jardin et met l'être humain pour devenir un jardinier. Et puis maintenant, on va dire, Dieu renvoya l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol. C'est exactement le programme de 2.5. Donc si vous lisez ça ensemble, il n'y a pas de sanction. Il a été créé pour travailler le sol. Il est renvoyé du jardin pour travailler le sol. Donc le jardin, c'est une sorte de parenthèse pour apprendre un certain nombre de choses à l'humain et peut-être aussi apprendre certaines choses à Dieu, parce qu'on a vu que Yahvé Dieu est un peu bricoleur, il ne sait pas toujours très bien comment il va se comporter avec cet être qu'il a créé. Une fois les choses sont claires, l'homme peut en effet travailler le sol pour et c'est sa destinée. Et donc là, il y a une deuxième conclusion qui de nouveau a été ajoutée par quelqu'un qui voulait dire on ne retourne plus du tout dans le jardin, puisqu'on va parler en fait des chérubins qui gardent l'entrée. Donc ici, le jardin, c'est une sorte d'enclos avec une ouverture à l'est, un peu comme les temples, comme on le dit au temple de Jérusalem. Donc on pense un peu à une sorte de sanctuaire. Hein, et c'est les chérubins qui en fait gardent l'entrée dans ce sanctuaire. Hein. Donc, chéroub, c'est à mettre en relation avec les couribous ou les caribous que vous trouvez par exemple au Louvre. Hein, si vous allez au Louvre, vous avez en fait ces êtres hybrides, dangereux, qui gardent l'entrée du palais ou des sanctuaires et qui sont repris ici. C'est des êtres. Des êtres dangereux qu'il faut parfois dompter. Mais l'idée, c'est de dire en fait que l'accès à ce jardin, à cet arbre de vie dont on n'avait pas tellement parlé auparavant, est définitivement interdit. Mais à mon avis, le récit se terminait avec le verset 23. Et donc, pour résumer cette histoire, il me semble que c'est très clair, ce n'est pas du tout une histoire du péché originel. C'est une réflexion sur la condition humaine. Et si vous réfléchissez un peu logiquement, ben, il n'y a pas d'autre solution pour l'être humain, pour le couple humain. Il faut qu'ils quittent le jardin. S'ils étaient restés dans le jardin, nous, on ne serait pas là. Donc l'idée que les générations se mettent en place, c'est au moment où une fois elles sont sorties du jardin. Et c'est aussi une réflexion un peu sur ce qu'après, en philosophie ou en théologie, on va apprendre à appeler le libre arbitre. Donc il y a un interdit, mais l'être humain a la possibilité de ne pas respecter l'interdit. Mais après, il faut aussi apprendre de gérer les suites de la transgression. Mais en même temps, on peut se dire, est-ce que c'est totalement, comment dire, c'est totalement autonome, ou est-ce que ce n'est pas Dieu qui, via le serpent, pousse un peu à la transgression? C'est possible. Donc, il y a toute une sorte, c'est une histoire d'apprentissage de la condition humaine et peut-être aussi de la condition divine. Et ça n'a rien à voir avec ce que fait ensuite l'apôtre Paul, qui dit par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, car si par la faute d'un seul la mort a régné pour lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce vont régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc en fait, il y a cette opposition entre Adam, l'ancien homme, et le nouvel homme, Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas du tout l'idée de l'auteur de Genèse 3. Et je pense ce que dit l'auteur de Genèse 3, en effet, est une réflexion qui nous concerne toutes et tous d'une certaine manière, parce que nous sommes en effet confrontés à ces questions. Voilà, il y a des règles, mais parfois il y a des règles peut-être à transgresser. Après, ben, il faut assumer les transgressions. Après, jusqu'à où va l'autonomie des êtres humains? Et Genèse 3 le met très très bien, à mon avis, en narration. Et puis, cette narration, en fait, elle va continuer par une autre réflexion qui est, parce que comme on parlait des origines, donc on avait vu les origines du monde, des hommes, de la liberté des hommes, de leur autonomie sans doute limitée, et maintenant nous avons un texte, en fait, qui va nous parler de la violence et de la difficulté qu'ont les humains à vivre ensemble. Ça, c'est l'histoire de Cain et Abel. Et donc, pour situer cette histoire de Cain et Abel, si vous regardez de nouveau les sources mésopotamiennes, Madame Ziegler vous a parlé de Atrahasis, déjà, de ce diptyque entre création des humains et déluge. Et donc, dans cette tradition qu'on retrouve aussi chez Bérose, un prêtre babylonien du IIIe siècle avant notre ère, qui écrit en grec. Donc, l'idée, c'est que dès que les hommes sont créés, on va passer au déluge. Puisque dans l'histoire d'Atrahasis, on nous dit que les hommes font trop de bruit, ils sont trop nombreux, et ça agace les dieux. Donc, les dieux essayent toutes sortes de choses pour diminuer en fait, les humains, et ça ne marche pas très bien, et donc ils décident le déluge. Alors que dans le texte biblique, entre le déluge et la création des humains, se trouvent deux récits ou deux textes de transition. Il y a un texte de transition qui se trouve au chapitre 5, qu'on va voir dans la suite, où vous avez toute une série de patriarches qui ont des durées de vie qui atteignent presque les 1000 ans, jusqu'à Noé, mais vous avez auparavant l'histoire de Cain et Abel, mais qui va également, en effet, se terminer par une généalogie. Et sans doute, une des raisons d'avoir mis ce récit à cet endroit, c'est d'expliquer ce que dit le récit sacerdotal, parce que le récit sacerdotal qui introduit le déluge va dire « La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regardait la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Et Dieu dit à Noé, pour moi la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes la terre est remplie de violence, je vais les détruire avec la terre. » Donc si on prend, on va voir ça en détail, la version sacerdotale, la raison qui est donnée, c'est la violence. La violence des humains. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette violence? C'est l'histoire de Cain et Abel, justement, qui va le raconter. n'est pas un texte sacerdotal. Est-ce qu'il est plus ancien ou est-ce qu'il est plus récent? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On peut aussi se dire, quelqu'un avait lu cette histoire, la violence s'est répandue sur la terre. On s'est dit, mais il faut que j'explique d'où elle vient, cette violence. Hein? Et c'est peut-être pour ça qu'on a intégré l'histoire de Cain et Abel, que je vais vous traduire. Quant à l'homme, c'est toujours pas Adam, c'est quant à l'homme, parce que c'est avec l'article, il avait connu Ève, sa femme, elle devint enceinte, elle enfanta Cain, et elle dit, j'ai procréé un homme avec Yahvé. Donc, Papha, on traduit par Dieu, comme la Septante, ou avec l'aide de, mais en hébreu, c'est avec. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Elle continua à enfanter son frère Abel. Abel devint un berger de petit bétail et Cain travaillait le sol. Après un certain temps, Cain apporta des fruits du sol, une offrande mincha pour Yahvé. Quant à Abel, il avait apporté, quand l'hébreu se met en plus que parfait, c'est l'idée en fait que les choses se passent en même temps. Donc, tandis que Cain fait son sacrifice, son offrande, Abel en fait un autre en même temps. Donc lui, il avait apporté des premiers-nés de son petit bétail, notamment leur partie grasse. Yahvé porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais sur Cain et sur son offrande, il n'avait pas porté son regard. Donc c'est aussi l'idée de, que ça se passe en même temps. Et Cain fut très irrité et son visage se contracta. Et Yahvé dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il contracté ?» N'est-ce pas? Et là, c'est le verset, un commentateur a dit, c'est le verset le plus compliqué de toute la Genèse. C'est vraiment un verset très difficile à traduire. N'est-ce pas? Bon, c'est une traduction approximative que je vais vous expliquer après. Si tu agis bien, alors élévation, mais si tu n'agis pas bien, à l'ouverture, le péché est tapis, et vers toi est son désir. Mais toi, domine-le. Donc on a l'idée de domination, on a l'idée de désir. Un peu, souvenez-vous, ce qu'on avait dit sur la femme et l'homme tout à l'heure. Donc la Septante a écrit toute autre chose. La Septante a traduit, « Si tu as présenté correctement, mais partagé non correctement, n'as-tu pas péché, reste tranquille, que vers toi aille son mouvement et tu le commanderas. » Alors est-ce que c'est plus clair ? Probablement pas. Donc je pense que le traducteur n'a pas eu trop d'idées non plus ce qu'il devait faire avec ce texte. Et après, d'autres particularités, verset 8, « Et Cain dit à Abel, son frère. » Et il dit rien. En hébreu, vous avez seulement « vayomer ». Et si vous avez « vayomer », les hébraïsans le savent, il faut un discours. Donc, parfois, on traduit simplement « il parla à son frère pour un peu atténuer la rupture ». Mais dans le texte massorétique, il y a une vraie rupture. Alors, on peut dire « allons quelque chose ». La Septante va rajouter « allons dans la plaine ». Mais dans le texte hébreu, nous avons cette rupture. Il faut se poser la question « pourquoi il y a cette rupture ?» Et lorsqu'il fut au champ, Cain se leva sur Abel, son frère le tua. Et Yahvé, bah ça c'est, vous pouvez déjà réfléchir un peu, il y a beaucoup de parallèles avec le récit de la Genèse, de Genèse 3. Hein? Déjà la question, où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? Comme il avait demandé aussi au couple humain, la voix du sang de ton frère crie vers moi depuis le sol, depuis la Adama. Et maintenant, tu es maudit, loin de la Adama, qui a couvert sa bouche et qui a ouvert, pardon, sa bouche pour prendre le sang de ton frère de ta main. Vie, tu travailleras le sol, mais il ne comptera pas à te donner sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à Yahvé, ma faute est trop grande pour la porter. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de la face du sol et de ta face, je serai caché. Je serai errant, vagabond sur la terre et quiconque me trouvera, me tuera. » Et Yahvé lui dit, « Pas ainsi. » Donc là, je pense en hébreu, il y a un petit souci parce qu'en hébreu, on a l'arken, ce qui veut dire c'est pourquoi. Je pense que c'est juste une question de mauvaise vocalisation. Il faut plutôt lire l'oken, pas ainsi. Hein. Pas ainsi, quiconque tue Caïn, il sera vengé cette fois. Est-ce que ça, c'est une solution? Parce que Caïn a peur qu'on va le tuer. Et là, de nouveau, Dieu est un peu bricoleur, comme en Genèse 3. D'abord, il dit, OK, si on te tue, tu vas être vengé cette fois. Mais ça lui fait une belle jambe s'il le tue. Donc, du coup, ce n'est pas ça. Du coup, Dieu se reprend, hein, puisqu'il va dire ensuite, et il y avait mis sur Caïn un signe pour que personne qui le trouve ne le tue. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc là, de nouveau, Dieu essaye comment faire. Et Caïn sortit de la face de Yahvé et il habitait dans le pays de Nod. Donc c'est une sorte de jeu de mots avec être errant. Donc souvent, on arrête l'histoire là. Mais l'histoire continue, en fait, puisque Caïn connut sa femme. Alors d'où est-ce qu'elle vient? On va voir. Elle devint enceinte et l'enfanta Enoch. Il se mit à bâtir une ville, appelait le nom de la ville comme le nom de son fils Enoch. Pour Enoch naquit Irad, et Irad engendra Meyuael, et Meyuael engendra Metushael, et Metushael engendra Lamech. Donc vous aurez droit à ça aussi au chapitre 5, donc c'est toutes ces listes généalogiques. Et après on arrive à Lamech. Lamech, donc, prit pour lui deux femmes. Donc on arrive à la bigamie ou à la polygamie. Le nom de la première était Ada, le nom de la deuxième Tsila. Ada enfanta Yabal. Il fut le père de toute personne habitant une tente et ayant un troupeau. Le nom de son frère fut Yubal. Il fut le père de toute personne jouant de la lyre et du chalumeau, de la flûte. Et Tsila avait enfanté Tubal-Caïn, un forgeron de tous les instruments de bronze et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Et Lamech dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Prêtez l'oreille à ma parole. Je tue un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. » En effet, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech sera vengé 77 fois. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On revient en fait à l'idée de la vendetta, alors que Yahvé avait fait quelque chose entre les deux. Et Adam connut encore une fois sa femme. Elle enfanta un fils. Elle appela son nom Seth. En effet, elle disait, « Dieu a établi pour moi une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. » Et pour Seth aussi naquit un fils. Il appela son fils Enoch. Et alors, on commença à invoquer ou à appeler le nom de Yahvé. Ça, c'est intéressant aussi. À la fin, donc, ça se termine, on commence à appeler, à invoquer le nom de Yahvé. Ce qui ne correspond pas tout à fait à d'autres textes. Parce que vous savez qu'il y a des textes dans l'Exode où Yahvé dit « Je ne me suis pas fait connaître sous mon nom de Yahvé. » Et ici, on le connaît quand même. Donc, ce n'est pas tout à fait la même conception de la connaissance du nom divin. Alors, si vous regardez le texte, vous voyez très bien qu'en fait, il y a 3 parties, puisqu'on a 3 fois une introduction avec un engendrement. Au verset 1, l'homme avait connu Ève, sa femme, elle devint enceinte, elle enfanta Caïn. Au verset 17, c'est Caïn qui connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Enoch. Et au verset 25, Adam connut encore une fois sa femme, et elle enfanta un fils, elle appela son nom Seth. Donc vous avez en fait 3 introductions qui délimitent en fait d'une certaine manière 3 parties, 1 à 16, donc la descendance de l'homme et de Ève, Caïn et Abel, avec l'idée que Caïn sera vengé cette femme et qui est ensuite corrigée. Ensuite la descendance de Caïn jusqu'à Lamech, on retrouve les 77, les 77 fois, et finalement une nouvelle descendance pour Adam. Donc la première partie, elle tourne en fait autour du meurtre et autour du personnage de Caïn. En fait, le héros principal, c'est Caïn. Abel, il est là que pour mourir, en fait. Tout tourne autour de Caïn. Caïn est procréé avec Yahvé au début, et à la fin, on va nous dire, Caïn est éloigné de la face de Yahvé. Donc il y a au niveau des offrandes une partialité de la part de Yahvé, hein, qui regarde un sacrifice et pas l'autre. La question, c'est de savoir pourquoi. Hein, et qui, finalement, correspond, en fait, à la protection du meurtrier par Yahvé. Donc, c'est un peu comme dans l'histoire du paradis. Donc, il y a à la fois la transgression, mais en même temps, après la transgression, quand même, les coupables sont protégés par Yahvé. Il y a, au milieu, le meurtre qui est entouré par une exhortation de Yahvé qui est adressée à Caïn et qui se vivit par un autre. Donc c'est un peu un chiasme à peu près qui est construit cette première partie. Et cette première partie, comme je vous ai déjà dit, elle a beaucoup de liens avec le récit de la transgression. Donc l'auteur qui a écrit Genèse 4, il connaissait bien Genèse 3 lorsque Ève s'exclame « J'ai procréé un homme avec Yahvé », ça correspond un peu à ce que dit Yahvé. L'homme est devenu comme un de nous, donc Ève se met au niveau de Yahvé. Hein, vers toi et son désir, mais domine-le par rapport au péché. Ben, c'est le désir, nous avons vu ce mot très rare, qui se trouve dans la relation entre l'homme et la femme. Les mêmes questions, où est ton frère, qu'as-tu fait? Où es-tu, qu'as-tu fait? La malédiction du sol, qui est renforcé, hein, qui se trouve dans les deux textes, l'idée d'être chassé, hein, tu me chasses, et à l'est d'Éden, et à l'est du jardin d'Éden. Donc il y a un éloignement qui continue, mais vous voyez, c'est construit un peu de la même manière. Hein. Donc au niveau de la diachronie, est-ce qu'il faut considérer que ces trois parties, ces trois unités indépendantes, donc on aura une première histoire et deux généalogies, c'est une possibilité. Hein. On peut dire aussi qu'au verset 17, tout un coup, on parle de la femme de Caïn. Mais l'idée que la terre est peuplée, elle est déjà présupposée avant. Parce que Caïn va dire « quiconque me trouvera, me tuera ». Donc, on est dans le mythe. Donc, on a déjà l'idée. Donc, ce n'est pas une opposition de dire qu'il y a une femme là au verset 17, mais cette femme, apparemment, il y a déjà suffisamment du monde sur la terre. Et je dirais la première généalogie, en fait, elle est nécessaire de savoir ce qui advint de Caïn. Parce qu'autrement, si leur histoire serait arrêtée avec Caïn, qui est tout seul dans le pays de Nod, l'histoire sera de nouveau pas vraiment continuée. Il ne sera pas marié, il sera resté dans le pays de Nod. Et puis de nouveau, la filière humaine se sera un peu arrêtée. Donc je pense que la première généalogie qui va de Caïn à Lamech, elle fait partie du premier récit. Alors la deuxième, par contre, est certainement un ajout, puisque nous allons le voir, ça facilite la transition avec la grande généalogie qui se trouve au chapitre 5, où ça commence avec Adam, Seth et Enoch. Apparemment, ils n'étaient pas d'accord sur les descendants d'Adam. Parce que là, on a Adam, Caïn, Abel, et ensuite, il y a une autre ligne, on a Adam, Seth et Enoch. Donc là, nous avons sans doute affaire à un ajout. Et donc, l'exhortation, le deuxième cas où on peut imaginer que nous avons affaire à un ajout, c'est cette exhortation de Yahvé à Caïn. Lorsqu'on dit Yahvé regarde le sacrifice d'Abel, il se tourne du sacrifice de Caïn, et puis Caïn est mécontent. Il y a ce discours un peu obscur qui est sans doute une insertion d'un rédacteur qui voulait introduire le thème du péché, parce que c'est pour la première fois qu'on parle du péché. Hein, on ne parle pas du péché en Genèse 3, mais là, on parle du péché. Et monter aussi, d'une certaine manière, que malgré cette partialité, Yahvé ne rompt pas la relation avec Caïn. Il lui parle, hein, il l'exhorte même. Donc, du coup, on peut imaginer que le verset 6-7 et le début du verset 8 ont été insérés dans un récit plus ancien, on avait simplement, sur Caïn, sur l'offrande, il n'avait pas porté son regard, Caïn fut très irrité, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn se leva sur Abel, son frère, et le tua. C'est probablement la narration la narration ancienne sur laquelle on a rajouté en fait ce discours obscur, comme je vous l'ai déjà dit. Et finalement, la note sur l'invocation du nom de Yahvé à la fin du verset 26, c'est probablement aussi un ajout, puisque il y a un auteur qui se dit, mais quand on continue dans la Genèse, on va voir les pérégrinations d'Abraham, et on va lire en fait au chapitre 12 que Vayikra Abraham, Vayikra Beshem Adonai, Abraham appelle le nom ou invoque le nom de Yahvé. Mais nulle part il est dit comment Abraham a connu ce Yahvé. Donc un rédacteur s'est dit, bon, tant pis, même si les collègues sacerdotaux disent ça s'est passé sur Moïse, c'est pas logique. Moi, je veux dire ça s'est passé depuis les origines, depuis Enoch. Et donc, il a rajouté, en fait, le verset 26. Donc, nous avons, en effet, là, trois strates, le récit ancien, le rajout de la deuxième généalogie et, finalement, l'exhortation de Yahvé avec le thème du péché et l'invocation du nom de Yahvé. Voilà. Alors, l'histoire commence très bizarrement. Je vais encore commenter juste ce verset-là. Puisque Ève devient enceinte et elle dit « J'ai procréé ou j'ai créé un homme avec Yahvé. » Alors, comment il faut comprendre ça? Elle ne dit pas un fils, hein, elle dit un homme, comme le Ish et le Isha qu'on avait à la fin du chapitre 2. Il aura pu dire Ben au moins. Hein. Donc, je pense qu'elle découvre finalement qu'elle est un peu comme les dieux, parce qu'elle peut donner la vie. Et connaître, comme je vous ai déjà dit, bah, évidemment, c'est un euphémisme ici pour le rapport sexuel. Ce qui est intéressant aussi, ce yada n'est jamais utilisé pour les animaux. C'est toujours pour les êtres humains. Donc la connaissance au niveau de la sexualité est apparemment aussi quelque chose qui est pour les êtres humains. J'ai créé Cana un homme avec Yahvé. Alors parfois on traduit avec l'aide de le Targoum. Le Targoum va dire avec Samaël, l'ange de Yahvé. Samaël, c'est l'ange du mal, le diable, puisqu'on a déjà une lecture très négative sur Caïn, ce qui évidemment n'est pas du tout dans le texte. Le Het, pour les hébraïsants, le Het pourrait aussi simplement être le marqueur de l'accusatif, le marqueur du COD. Mais à ce moment-là, Luther avait traduit comme ça, mais après, dans la révision de la Bible, Luther on a laissé tomber. Il a traduit « Chaki, un homme, deux points, Yahvé ». Ce qui ne donne pas vraiment un sens. Enfin, mais grammaticalement, ce n'est pas impossible. Donc, Cana, alors on dit parfois Cana peut signifier acquérir, mais c'est quand même souvent créé, comme par exemple dans le discours de la sagesse, au proverbe 8, quand il est dit que Yahvé m'a créé, Yahvé conne rechet d'arco. Yahvé m'a créé au début de son chemin, au début de toute son œuvre. Et à Ougarit, il est en effet considéré comme le créateur et seigneur des dieux, comme d'ailleurs sa parèdre Asirat ou Ashera, qui est appelée la créatrice des dieux. Hein? On peut aussi penser encore à Genèse 14-19, où Abraham rencontre le El Elyon, connaît Shamayim v'aretz, donc les dieux créateurs Cana, toujours la même racine, du ciel et de la terre. Donc, on voit quand même que Yahvé joue un rôle dans cette mise au monde de Cain, laquelle c'est difficile de savoir, mais vous avez quand même des récits bibliques où il faut imaginer quand même certaines activités sexuelles de la divinité. Hein, par exemple, pensez à l'histoire de la naissance d'Isaac. Hein, parce qu'en Genèse 21, il est dit, Yahvé s'occupa Pakad, qui peut avoir aussi un sens très sexuel, Pakad, Yahvé s'occupa de Sarah, comme il l'avait dit. Il fit pour elle ce qu'il avait dit. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? On ne sait pas. Pensez aussi à l'évangile de Luc. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Hein? Donc là, il y a aussi une certaine intervention divine quand même. Donc, comme le dit David Bokovoy, il faut imaginer quand même une intervention assez directe de la part de Yahvé, bien qu'on ne va pas dans les détails. Et on peut dire en fait que Ève, avec son exclamation, elle apparaît un peu comme la Asherah de Yahvé ici. J'ai créé avec Yahvé, comme il et Asherah à Ougarit. Donc en fait, Cain, il est dans une sorte de tension parce qu'il a quelque part, il a deux pères. Il a Adam, et par Adam, il est rattaché à la Adama, à la terre. Et après, il y a Yahvé, et par Yahvé, il est rattaché au monde divin. Et à la fin, il sera à la fois éloigné de la terre parce qu'il sera encore plus maudit, et il sera aussi éloigné par rapport à Yahvé. Donc c'est un double éloignement qui commence en fait avec d'abord ce double lien qui est souligné au début de l'histoire. Bon, comment ça continue? On verra ça la semaine prochaine. Et je vous parlerai aussi des généalogies. Donc, nous ferons une petite pause et puis ensuite, nous aurons le séminaire ici avec Corinne Lanoir qui nous parlera de Lilith. Alors, du mythe, on verra. Donc, il y a beaucoup d'origines, il y a peut-être un peu de Lilith, il y a beaucoup de femmes, ça je peux déjà vous le dire. Donc, voilà, si vous avez le temps, vous pouvez rester. Autrement, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine et à bientôt.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.